Leoldi, un des pasteurs adjoints de cette église Ecclesia 21. J'ai le plaisir de vous apporter la parole ce matin, de présider ce culte. Vous êtes prêts? Vous avez amené votre Bible avec vous? Alors, le Seigneur m'a dit, ouvre les Écritures dans Éphésiens chapitre 4 et je vais t'apprendre quelque chose. C'est donc ce que j'ai fait et ce qu'on va faire ensemble, ouvrir les Écritures dans Éphésiens au chapitre 4. De là où je suis, il y a un léger écho dans le micro. Est-ce que c'est le cas dans la salle également? Non, ça va? Ok, ça va, ça va. Si c'est bon pour vous, c'est ok. Je vous l'ai dit, on est en rodage. Donc même l'équipe technique est en train d'apprendre à maîtriser la bête, là-bas, le matériel. Ils sont passés d'une petite table de mixage, 9 pistes, à une table de mixage, 24 pistes plus 10 auxiliaires. Donc ils apprennent au fur et à mesure. Mais j'apprécie qu'on ne baisse pas les bras et qu'on dit « Seigneur, tu vas me donner cette montagne. » Éphésiens au chapitre 4, il nous est dit, au verset 1, non, on va commencer au verset 7. Mais, et je pense que dans à peu près toutes les versions, celles que vous avez devant vous, Éphésiens 4, 7 commence par « mais ». À chacun de nous, la grâce a été donnée. Selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Paul est en train d'expliquer quelque chose de riche ici. Je ne dirais pas de compliqué, mais de complexe. Et on pourrait s'attarder sur chaque chose. Et c'est le suivant sur lequel je veux m'attarder. Et donc, ce passage nous dit, Jésus a fait des dons aux hommes, à l'humanité. Et il a donné, verset 11, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Dans quel but? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, il faut le paraphraser dans un langage plus contemporain. Il faut le traduire dans des mots. En plus, chaque mot ici pourrait peindre un concept religieux. Donc, il faut simplifier les choses, surtout à notre époque. Il a donné, ça on a compris, à qui? À toute l'humanité. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Un enseignant n'est pas forcément pasteur, mais un pasteur doit être capable d'enseigner. Et en grec, la notion c'est comme pasteur-enseignant. Dans quel but? Pour perfectionner. Qui? Les saints. Alors dans la tradition religieuse chrétienne, les saints sont de rares élus. En général, on leur bâtit une statue. Et on attend qu'il soit mort, d'ailleurs, pour le faire. Mais dans les Écritures, est saint toute personne qui a reçu Jésus dans son cœur. Saint veut dire mis à part pour Dieu. Donc ici, si ces ministères dons ont été donnés, c'est dans un but, c'est pour perfectionner, on va dire, les chrétiens, tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie. Perfectionner. Le mot « parfait » dans les Écritures ne décrit pas quelqu'un qui n'a plus aucun péché, qui est totalement tiré d'affaire. Ou plus exactement, le mot « parfait » veut dire plusieurs choses. Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas nous, pas pour l'instant. Le mot « parfait », en revanche, étymologiquement, veut dire « mature », « complet », qui a atteint sa pleine maturité. Donc, comme nous n'en sommes pas encore là, ici, ces ministères dons ont été donnés, notamment au corps de Christ, pour nous permettre d'avancer sur cette voie, pour nous perfectionner, pour nous rendre plus matures, pour nous aider à nous débarrasser au fur et à mesure de ce qui fait que nous étions immatures. Vous êtes avec moi? Ok, on avance. Jusqu'à quand? Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Connaître, dans les Écritures, ne veut jamais dire se remplir la tête d'informations. Connaître, dans le langage biblique, ça veut dire expérimenter. Dans notre système éducatif, en Europe, la connaissance, c'est la théorie. Mais dans les Écritures, c'est-à-dire un enseignement à la grecque, mais dans les Écritures, c'est une pensée juive, c'est une pensée hébraïque. Et la connaissance, le savoir hébraïque, c'est une connaissance qu'on t'a inculquée, mais qu'ensuite tu as mise en pratique, expérimentée, vécue. Donc ici, quand il nous est dit que tous ces ministères dons nous ont été donnés pour nous faire grandir, de manière à ce que nous puissions connaître le Fils de Dieu, alors ça veut dire de manière à ce que nous puissions pleinement expérimenter Jésus en nous. Tu dis, mais c'est le cas, je suis né de nouveau. Oui, ça c'était le point de départ. Mais on va voir certaines Écritures qui nous disent que Jésus doit prendre de plus en plus de place à l'intérieur de nous. Nous devons décroître pour qu'il augmente à l'intérieur de nous. Et les cinq ministères dons dont nous avons parlé ici sont là pour nous aider. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, c'est-à-dire d'être humain mature, pleinement accompli, à la mesure de la stature parfaite, elle aussi, de Christ. Est-ce que vous comprenez ? Jusque-là, est-ce que vous comprenez ? Ok, ça peint une image en nous. Alors, nous ne serons plus des enfants. C'est quoi un enfant ? C'est dit ici. Un enfant, c'est quelqu'un qui est flottant et emporté à tout vent de doctrine, et qui est notamment victime ou sujet à la tromperie des hommes par leurs ruses dans les moyens de séduction. Etc., etc. Donc on comprend que Dieu, en la personne de Jésus, venu sur terre, est remonté au ciel, et de là-haut, il a fait des dons aux hommes. On dit oui, les dons spirituels. Non. Les dons spirituels de 1 Corinthiens 12, c'est ceux que chacun d'entre nous pouvons recevoir du Saint-Esprit. Mais ici, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Le mot « don » dont il s'agit ici, et je reprends le verset 7, « à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ ». Le mot « don » ici, c'est un cadeau gratuit. Ça veut juste dire « cadeau » en grec. Il n'y a rien de particulièrement spirituel dans ce mot-là. C'est un cadeau. Et ensuite, il a fait des dons aux hommes, des cadeaux aux hommes. Quand Dieu te fait un cadeau, il est sage de savoir l'accepter et de savoir l'apprécier et l'utiliser à sa juste valeur. Parce que quand Dieu te fait un cadeau, d'abord c'est parce qu'il t'aime, et ensuite c'est parce que tu en as besoin. Moi, si je fais cadeau d'un jeu de casserole pour ma femme à Noël, par exemple, c'est parce que je l'aime, c'est parce qu'elle en a besoin. Le résultat ne va pas vraiment être celui escompté. Mais là, quand Dieu nous fait un cadeau, c'est parce qu'il nous aime, que nous en avons besoin et nous pouvons l'apprécier. Quels sont les cadeaux dont Dieu parle ici ? Ce sont des gens. Et ces gens, ce sont ceux sur qui Dieu a décidé souverainement de placer un des cinq ministères dons dont on vient de parler. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, l'enseignant, et le pasteur qui doit savoir enseigner. Et ce matin, on va parler du pasteur. Le pasteur n'est pas quelqu'un qui s'est autoproclamé pasteur. Le pasteur n'est pas le président d'une association uniquement. Le pasteur n'est pas quelqu'un qu'on a dit « Ah, toi, tu présentes bien, tu vas aller sur l'estrade désormais. Ah, toi, tu sais bien parler. Ah, toi, tu as fait une école biblique. » Non, le pasteur est quelqu'un qui a reçu de Dieu une onction pastorale pour prendre soin du troupeau, comme on va le voir. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, même si des fois... Mais bon, passons. Le pasteur est un don fait par Dieu aux hommes et aux femmes de manière à pouvoir les aider à grandir, de manière à pouvoir les aider à ne plus être des enfants, de manière à pouvoir les aider à grandir jusqu'à la stature pleinement mature du Christ. Le pasteur est là pour t'aider à devenir le meilleur de toi-même. Vous comprenez ça ? Bien. Ça, c'est l'image qu'il faut garder en tête. Parce que si on perd de vue cette image, très rapidement, on risque, dans n'importe quelle église, de glisser ensuite vers ne plus voir que les défauts de l'être humain. Et perdre de vue que malgré les défauts, parce qu'ils y sont, de l'être humain, et gloire à Dieu, le pasteur, il grandit comme les autres. Le pasteur a un pasteur. Et il est également au bénéfice des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des enseignants. Mais malgré les défauts, l'onction est sur lui. Et si, dans ton cœur, Dieu te place dans une église en disant « c'est là que je veux que tu sois », alors ça veut dire qu'il y a dans la personne du pasteur une onction qui est pour toi et dont tu as besoin pour pouvoir te perfectionner, grandir, devenir plus mature et changer. Est-ce que vous comprenez ça ? Seulement, le verset 7 commence par « mais ». Ça s'appelle une conjonction de coordination. Vous vous souvenez ? C'était il y a longtemps, je sais, pour ça. Mais... mais où est donc Orlicar ? Et la conjonction de coordination dans la Bible, elle est importante parce que ça veut dire que le passage en question est relié à un passage qui précède. Et si tu veux comprendre le passage que tu es en train de lire, s'il y a un « donc » ou un « et » ou un « mais » ou un « car » ou un « ou un « ni », c'est un peu le tiercé dans le désordre là, mais c'est pas grave. Il faut lire ce qui est avant pour comprendre. Sinon, tu vas te planter dans ton interprétation ou tu vas passer à côté de quelque chose. Il va te manquer quelque chose. Donc on remonte. On remonte où ? On remonte au chapitre 4, verset 1, toujours Éphésiens, de 1 à 6. « Je vous exhorte donc... » Ding ! Vous me voyez venir, hein ?« Je vous exhorte donc... » C'est Paul qui écrit. « Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, nous avons tous reçu un appel de Dieu. Appelé à prêcher, pas appelé à prêcher, ça n'a rien à voir. Écoutez mon message sur le sujet. Nous sommes tous, à partir du moment où tu es né de nouveau, tu es appelé à entrer dans le corps de Christ et tu es appelé à vivre pour Dieu. Bon, la vocation, l'appel, c'est la même chose. Et il y a une manière de marcher dans cet appel, dans cette marche avec Dieu, que Dieu dit, ça c'est digne de l'appel que j'ai adressé à cette personne. Et Paul nous encourage à cela. Et il nous donne des caractéristiques de cette marche avec Dieu. C'est quoi ? L'humilité, la douceur, la patience, le fait de se supporter les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a des gens qui disent « Seigneur, unis ton Église ». C'est déjà fait depuis longtemps. Maintenant, l'unité de l'esprit, notre job, c'est de la conserver. Ce n'est pas de la créer ou de la provoquer. Je suis déjà uni avec tous ceux qui ont l'esprit de Dieu à l'intérieur d'eux, quelle que soit leur dénomination. Par contre, je dois conserver cette unité et je dois faire des efforts. Il nous est dit ici, vous efforçant. Et au sein de la même Église, je dois m'efforcer de conserver l'unité. Comment ? Par la paix. Je privilégie la paix. Et tout ce qui peut troubler la paix est un ennemi. Est-ce que ça veut dire, oh, il ne faut jamais dire qu'on n'est pas d'accord ? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire, ah, je n'ai pas le droit de dire à l'autre, écoute, je n'apprécie pas ce que tu m'as dit ? Pas du tout. Mais on peut être en désaccord tout en étant dans la paix. Ça ne vous a pas été annoncé, mais il y a un groupe qui va s'ouvrir début février qui s'appelle « S'entendre avec les autres ». Je vous encourage à vous y inscrire. Mais parce que ça va être une bénédiction. Vous, vous allez devenir une bénédiction pour les autres, plus que vous ne l'êtes déjà, et vous allez voir les autres comme une bénédiction pour vous et non pas comme une malédiction ou des empêcheurs de tourner en rond. Bien, on continue. Il y a un seul corps, ouais, le corps de Christ. Un seul esprit, absolument. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, votre appel. Oui, c'est vrai. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. On pourrait prêcher là-dessus, mais je ne vais pas le faire maintenant. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Paul s'adresse à des chrétiens. Ouais. Mais, à chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc on adore le même Dieu, c'est ça que Paul est en train de dire. Le corps de Christ adore le même Dieu, il a le même Saint-Esprit, il y a la même foi, la même espérance, on va tous dans la même direction. Mais, il y a quelque chose qui fait que d'une personne à l'autre, ce n'est pas la même chose. C'est quoi ? C'est que la grâce t'a été donnée à la mesure du don de Christ, du cadeau de Christ. Et quel est le cadeau dont il nous parle ici? Ce n'est pas les dons spirituels, parce que ce n'est pas le mot charisma en hébreu. C'est le mot doma et le mot dorea qui veulent dire les cadeaux. Et de quel cadeau on parle? Pasteur, évangéliste, enseignant, prophète, apôtre. Tu ne vas grandir dans la grâce que Dieu t'a donnée qu'à la mesure de ce que tu reçois du ministère de ces gens-là. Et là, oui, il y a des niveaux de croissance différents. Absolument. Absolument. Il y a parmi nous des gens qui sont des géants spirituels et il y a parmi nous des gens qui sont des nouveau-nés spirituels. Et ça n'a rien à voir avec depuis combien de temps tu as accepté Jésus dans ta vie. Parce que tu peux avoir accepté Jésus dans ta vie depuis un an et avoir aspiré tout le ministère que Dieu pouvait avoir à te donner à travers ces gens-là et tu vas faire des bonds dans ta croissance. Ou plutôt pas à pas, mais ça va être des pas rapides. Ou alors tu peux être assis sur ta chaise, celle où il y a la trace de ton fessier dessus. Depuis 20 ans, mais tu te comportes toujours comme un enfant spirituel. Pourquoi? Parce que t'es bien. T'es bien, mais il ne faut pas trop pousser. Et donc, tu places un couvercle, tu plafonnes l'onction que nous sommes en mesure de déverser dans ta vie. Et donc, combien tu grandis dans la grâce de Dieu? Ou pas? Ou pas? Un des symptômes, c'est quoi? Quel est l'opposé de la grâce dans les Écritures? L'esprit légaliste. Tu veux savoir où tu en es par rapport à ta croissance spirituelle? Est-ce que tu réfléchis toujours sous la loi? Ou est-ce que tu réfléchis selon la grâce? Si tu es toujours en train de te comparer ou de comparer, si tu es toujours en train de réfléchir en termes de mérite, si tu es toujours en train de vouloir gagner des points avec autrui, si tu es toujours très anxieux de savoir qu'est-ce qu'on va penser de moi, si tu te rends compte que tu as un œil souvent critique sur les autres, ça, c'est des symptômes qui doivent attirer ton attention sur le fait que ton schéma de pensée, il est selon la loi et pas selon la grâce. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est que si tu réfléchis comme ça, ma question est, à quel point reçois-tu de ton pasteur? Oui, c'est mon église, c'est mon pasteur. C'est vrai? Ça, c'est ce que tu dis et c'est ce que tu as écrit sur le bulletin de candidature. Mais dans ton cœur, qu'en est-il? Et c'est une question qu'il faut se poser tout au fil de notre marche avec Dieu. Parce que l'offense est souvent tapie à la porte, mes amis. Et que nous avons tous l'occasion, je dis bien tous, tu dis à toi, moi aussi, nous avons tous l'occasion à un moment donné de dire, là je m'offense. Vis-à-vis de quelqu'un d'en dessous, vis-à-vis de quelqu'un du dessus, vis-à-vis de quelqu'un sur les côtés, vis-à-vis... Tous nous avons cette occasion-là. Et nous choisissons. Et si l'offense vient de quelqu'un que tu dis être ton pasteur, quelle est ta réaction? Quelle est ton attitude? Il y a une manière de gérer ça. Je ne dis pas, oh allez, on met tout sous le tapis, après tout, c'est pas si grave. Non, il y a des choses qui font mal. Et un pasteur, il n'est pas parfait, il peut se planter. Moi, le premier. Mais quelle est notre attitude? Je claque la porte, je ne dis plus rien, je m'en vais. C'est toi qui vois. Mais tu, ce que tu... Qui tu es en sortant, c'est qui tu emmènes avec toi dans la prochaine église. Ou dans ton job, ou dans ta famille. Ça ne change rien. Le ministère du pasteur. Bon, qu'est-ce qu'on trouve dans le verset 1 du chapitre 4? Une conjonction de coordination. Je vous exhorte donc. Ce qui veut dire, il faut remonter en arrière pour savoir de quoi il parle. Et vous allez voir, je vous fais un truc à la Star Wars, là. Je vous fais un truc avec un cheminement qui va dans le mauvais sens, chronologiquement. Mais après, on dit, ah, c'était donc lui! C'était donc ça qu'il voulait dire. Oui, c'était cela qu'il voulait dire. Éphésiens chapitre 3. Il nous a dit au verset 13. Non. Deux secondes. Allez, au verset 1. On commence au verset 1, on le lit rapidement. À cause de cela. Ah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous lirez le verset 2 avant, d'accord? Le chapitre 2. À cause de ça, moi, Paul, le prisonnier du Christ pour vous, les païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, ou la compréhension que j'ai du mystère de Christ. C'est quoi ce mystère ? Qu'est-ce que Paul... C'était quoi le... J'allais dire le fond de commerce. C'était... Parce que ce n'était pas un commerce. C'était quoi le message de Paul ? Qu'est-ce que Dieu a confié à cet homme en particulier qui était révolutionnaire ? Le mystère de Christ. Et c'est quoi le mystère de Christ ? Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, verset 6, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps, co-héritiers de qui ? Des juifs. On prêchera là-dessus une autre fois. Il y aura peut-être même un week-end studio sur ce sujet-là, parce que c'est fondamental. Mais spirituellement, nous sommes greffés à l'olivier cultivé de Dieu, c'est-à-dire aux juifs à qui les promesses ont été faites. Promesses spirituelles. Il nous est dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Blablabla, verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Parce qu'il a dégusté quand même l'apôtre Paul. Hein. Je ne sais pas si quand il a écrit Éphésiens, il était en prison ou pas. Je pense que oui. Et c'est la moindre des choses qui lui soit arrivée, bien que les prisons de l'époque n'étaient pas les prisons d'aujourd'hui. Hein. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Vous connaissez peut-être cette prière qui est connue. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, écoutez bien, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur, homme ou femme, dans votre être intérieur. Ici, Paul s'adresse à des chrétiens. Et il leur dit, le Saint-Esprit peut te rendre à l'intérieur encore plus fort que tu ne l'es déjà. Et c'est ma prière pour toi. Je prie pour que le Saint-Esprit te fortifie puissamment dans ton être intérieur. Tu dis, mais mon esprit est parfait. Oui, mais ton âme ne l'est pas encore. Et tu as besoin de grandir à l'intérieur. Écoutez bien. En sorte que, une autre manière de dire, afin que, dans le but de. Pourquoi est-ce qu'il faut que nous soyons plus forts à l'intérieur ? Ici, il nous est dit, pour que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Tu dis, ah, je ne comprends plus alors. Je croyais que quand je suis né de nouveau, le Christ est venu habiter dans mon cœur par la foi. Oui, mais le cœur ne désigne pas que l'esprit. Le cœur désigne tout ton être intérieur. Or, oui, dans ton esprit, la partie la plus profonde de toi, Jésus est venu faire sa demeure à partir du moment où tu l'as invité. Mais est-ce que nous sommes tous d'accord pour dire qu'à l'intérieur de nous, il y a encore des choses qui ne sont pas de Dieu ? Des habitudes, des façons de penser, des réactions, des émotions. Et le but dont Paul parle ici, c'est de dire « il faut » que Christ prenne plus de place à l'intérieur de toi. En ce moment, il fait froid, on essaie de mettre des gants à nos enfants. C'est pas facile. Mettre des gants, pas des moufles, des vrais gants avec 5 doigts, à un enfant qui gigote tout le temps, surtout si le gant, c'est un truc premier prix de chez H&M, vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Et alors, le polyester, il a tendance à s'accrocher aux ongles, ou alors le coup classique, il vous en met 2 dans un seul doigt. Et quand vous êtes pressé pour partir, ah, ça m'énerve, arrête de bouger. Tu coinces un doigt comme ça, tu lui coinces un deuxième doigt comme ça, tu dis ça, c'est bon, ceux-là, ils sont bons. Allez, maintenant, tu bouges plus, mets les autres. Le but, c'est quoi ? C'est que la main prenne complètement, il faut que ça soit bien tiré jusque-là, tu sais, c'est presque un gant de chirurgien, crac, tu bouges plus maintenant. C'est que la main prenne complètement possession du gant. Toute la forme intérieure, tout l'espace intérieur soit occupé par la main. Vous comprenez ? C'est la même chose pour Jésus. C'est la même chose pour Jésus. Et ici, il nous est dit, il faut que tu sois fortifié dans ton être intérieur par le Saint-Esprit, parce que de la sorte, Jésus va pouvoir prendre de plus en plus de place à l'intérieur de toi. Hier, j'ai découvert ce qu'était un castor. Vous allez me dire, oh, c'est évident, un castor, Castor. Non, pas ce castor-là. Castor, c'est un anagramme pour désigner le conteneur de matériaux nucléaires. Un castor. Alors, dans le jargon, on dit, ah, il y a un castor qui va passer. Alors tout le monde est là avec son appareil photo, et en fait, non, tirez-vous, c'est un conteneur nucléaire, soyez pas, restez pas près du truc. Vous imaginez que pour transporter le combustible qui va être utilisé dans une centrale atomique, vous ne mettez pas ça dans des bouteilles en plastique. Vous mettez ça dans des fûts de fonte qui font en général 25 cm d'épaisseur de fonte. Ça veut dire 25 cm, ça fait à peu près ça. La paroi du fût fait à peu près ça. Donc c'est un mur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ça qui peut empêcher que ça parte vers l'extérieur. Je vais vous donner un autre exemple plus proche de nous. À la fin du culte, vous allez peut-être prendre un thé ou un café. Et si ça vous est déjà arrivé, entre le gobelet en plastique premier prix pour un thé bien brûlant, vous voyez, et le gobelet cartonné un peu plus robuste, vous allez choisir le gobelet cartonné un peu plus robuste. Pourquoi ? Pour éviter de vous brûler les doigts, tout simplement. Voire même, si l'eau est vraiment très très chaude, pour éviter que ça ne fonde. Parce que le conteneur n'est pas capable de recevoir, le contenant n'est pas capable de recevoir ce contenu. Vous voyez où je veux en venir ? Dieu veut augmenter la puissance en toi. Encore faut-il que tu sois capable de la recevoir. Et pour ça, tu as besoin de te transformer en castor. Non, je plaisante. Et pour ça, il faut que tu t'épaississes spirituellement. On continue. Étant enraciné et fondé dans l'amour, donc ça c'est le terreau, la base, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître, c'est-à-dire expérimenter, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est bon, ça commence à faire sens maintenant, on comprend. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si vous relisez dans Éphésiens, vous remontrez au chapitre 1, il nous est dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que blablabla, il a ressuscité et fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes en Christ, et la puissance, pardon, verset 20, il l'a déployé en Christ, Donc Christ, lui, il était capable de recevoir ça, à sa résurrection. Maintenant, c'est en nous qu'il faut que ça se manifeste, et que ça prenne de plus en plus, de plus en plus de place. Verset 23 du chapitre 1, vous le relirez, il nous est dit que nous sommes le corps de Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc l'objectif, il est... c'est pas que tu restes là où tu en es actuellement, c'est que Dieu puisse augmenter la puissance à l'intérieur de toi. Une fois qu'on a compris ça, on comprend mieux le chapitre 4, c'est pour ça que Paul dit « Je vous exhorte donc, moi le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Le but, c'est ça. La mission, l'objectif, c'est ça. Comment faire ? Bon, il y a plusieurs clés pour ça. Une des manières, c'est de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Une autre manière, et maintenant le Star Wars commence à prendre son sens, c'est d'accepter le cadeau de Dieu. Et notamment le don du pasteur qu'il t'a fait. Pour que tu puisses être perfectionné en tant que chrétien, en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire Dieu, cette puissance, elle n'est pas simplement destinée à être enfermée dans un fût. À un moment donné, elle est là pour que les vannes, boum, soient ouvertes et tu changes ton monde. Mais pour ça, il faut que tu puisses grandir, notamment grâce au cadeau que Dieu t'a fait. Est-ce que c'est clair ? On voit les Écritures ensemble. On voit les Écritures ensemble. Bien ? Regardez avec moi dans 1 Pierre 2, 24. On connaît ce verset. On connaît ce verset parce qu'on l'utilise beaucoup pour la guérison. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Il nous est dit, lui qui injuriait ne rendait pas d'injure, maltraitait ne faisait pas de menace. Pardon, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Et on s'arrête là. Mais le verset 25 dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Tu dis, quel rapport ça a avec tout ce qu'on vient de voir? Ah, c'est très simple. Le mot pasteur, ça veut dire berger, tout simplement. Un pasteur, c'est un berger. C'est quoi un berger? Bon, c'est quelqu'un qui garde des moutons, des brebis, des chèvres, peu importe. C'est quelqu'un qui a pour but de protéger le troupeau. Je vais vous lire la définition. Du mot berger. Les tâches plus exactement d'un berger du Proche-Orient, c'était de veiller aux ennemis essayant d'attaquer les brebis, défendre les brebis contre leurs attaquants, hommes ou bêtes, soigner et guérir les brebis malades ou blessées, retrouver et sauver les brebis perdues ou prises au piège, les aimer en partageant leur vie et gagner ainsi leur confiance. Et il y a une note qui dit, durant la Seconde Guerre mondiale, c'est intéressant aussi, le berger, c'était un pilote qui guidait un autre pilote dont l'avion était partiellement endommagé, à revenir à la base en volant à côté de lui pour maintenir un contact visuel. Intéressant, hein? Le pasteur, c'est un berger. Donc un troupeau que Dieu lui confie et dont il doit s'occuper. Il nous est dit ici que Jésus, c'est le berger des bergers. C'est le souverain berger. C'est également ton berger. Psaume 23, on le sait, l'Éternel est mon berger. Le berger est le gardien de nos âmes. Un autre mot, je crois que c'est poiménos le berger en grec, et le gardien c'est épiscopos. Épi, ça veut dire au-dessus de, comme l'épiderme. Scopos, scope, ça veut dire regarder. Périscope, télescope, tout ce que vous voulez. Donc épiscope, c'est celui qui va regarder du dessus, ou littéralement surveiller. Donc ça, c'est Jésus pour le chrétien. Mais apparemment, un de ses attributs, un de ses mandats, il l'a confié, parce que Jésus était apôtre, prophète, évangéliste, enseignant et pasteur. Et il a fait des cadeaux au peuple, notamment le pasteur, en lui déléguant son onction et son autorité pour prendre soin des gens. Bien sûr que nous sommes tous les brebis du Seigneur, mais il a plu à Dieu de dire, il va y avoir un contact humain dans cette histoire. C'est-à-dire un pasteur, en chair et en os. Et dans certains cercles, malheureusement, le ministère du pasteur est mal apprécié. Les gens qui disent, ouais, mais les églises, ça c'était pour avant. Aujourd'hui, c'est l'église universelle. Les pasteurs, non, l'église locale, non, non, non. Et ils passent à côté de ça. Jésus est notre souverain berger. Et il a décidé de déléguer cela. Regardez dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Paul est en train de prendre congé des anciens d'Éphèse. Et il dit, verset 28, « Prenez donc garde à vous-même. » Donc, il est en train de parler à des responsables. J'ai lu aujourd'hui, cette semaine, une autre traduction du mot « leader ». D'habitude, c'est toujours « oui, un leader, c'est un leader ». Bon, d'accord. Un leader, c'est un responsable. Ok, donc il a toutes les responsabilités. C'est bien, les autres n'en ont plus aucune. Un leader, c'est un dirigeant. Ouais, seulement, ce mot-là, en France, on ne l'aime pas trop aujourd'hui. Surtout en ce moment. Et j'ai lu, un leader, c'est un conducteur. J'ai bien aimé ce mot-là. Parce qu'un conducteur, surtout pendant les travaux que nous sommes en train de faire ici, un conducteur, c'est quelqu'un qui va conduire quelqu'un ou quelque chose. Notamment en laissant passer à travers lui. Un fil, quand il est conducteur d'électricité, il laisse passer l'électricité à travers lui pour amener d'un point A à un point B. Ici, il s'adresse à des conducteurs. Et il leur dit, verset 28, « Prenez donc garde à vous-même, donc personne n'est exempt, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire épiscopos, surveillant, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc c'est très clair, c'est très clair. Oui, Jésus est notre berger, mais il a délégué cette onction et cette autorité de pasteur, là je parle des pasteurs aujourd'hui, à des hommes et à des femmes, de chair et de sang et d'esprit, qui ont cette mission vis-à-vis du peuple et du troupeau. Laquelle ? Vous rendre plus fort. Faire en sorte que Christ soit capable de prendre sa pleine dimension à l'intérieur de vous. Vous comprenez ? Vous comprenez comment ça fonctionne ? Je vais m'arrêter là pour ce matin, mais pour ceux que ça intéresse, vous pourrez lire également 1 Corinthiens chapitre 3. Vous pourrez lire Hébreux 5, 12. Vous pourrez lire Hébreux 12, verset 1 à 16. Et vous pourrez lire 1 Corinthiens 4, verset 14 à 17. Vous pourrez lire également Matthieu au chapitre 9 et Marc au chapitre 6. Tout cela a un rapport avec ce que je viens de dire. Vous réécouterez le message si vous avez loupé les références. Tout ça vient à un rapport avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire le fait que le ministère du berger est indispensable dans la vie d'un être humain, pas que d'un chrétien, d'un être humain. Que les brebis qui n'avaient pas de berger, et comme aujourd'hui celles qui n'ont pas de berger, sont languissantes et abattues. Que nous sommes appelés à fortifier, comment il est dit, les mains languissantes et le genou qui faiblissent. C'est le même vocabulaire que celui que Jésus employait à propos des gens qui n'avaient pas de berger. Languissant, abattu, faible. Comment est-ce que je peux fortifier les mains languissantes et les genoux qui faiblissent ? Ben, pourquoi ils étaient faibles et languissants ? Parce qu'ils n'avaient pas de berger. Comment est-ce que je peux me fortifier en bénéficiant pleinement du ministère du berger ? Il y a un parallèle entre Corinthiens et Hébreux que vous regarderez à la maison. Mais je ne veux pas aller plus loin parce que je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire ce matin. Et je veux vraiment vous encourager. Une fois encore, les pasteurs ne sont pas parfaits, nulle part, jamais, sur cette planète. La question est, où est-ce que Dieu te place ? Dans quel but ? Faire grandir sa puissance à l'intérieur de toi. Laisser Christ prendre toute la place à l'intérieur de toi. Et ensuite, ouvrir les vannes dans cette génération. Il y a matière à réflexion ? Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus pour ton plan qui est tellement génial, intelligent, merveilleux, Seigneur, bon pour nous. Mon Dieu, je te demande de parler comme tu as commencé à le faire. Dans 1 Roi, Seigneur, il est dit que tu n'étais pas dans le vent, tu n'étais pas dans le fracas des montagnes, tu n'étais pas dans le feu, mais tu étais dans le murmure. Et Saint-Esprit, tandis que nous allons prendre quelques secondes de silence pour méditer sur ce que nous venons d'entendre, toi tu parles. S'il y a des repentances qui doivent prendre place, repentance, ça veut dire changement de façon de penser. Souvent, ça s'accompagne d'actes. Eh bien, ainsi soit-il, Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'est pour notre bien. Celui de notre génération, oui, c'est vrai, de notre famille, de nos collègues de travail, de nos amis, de nos proches et de nous-mêmes. Et Seigneur, nous voulons bénéficier pleinement de toutes les onctions que tu nous as donné et que tu continues de nous donner quand nous recevons des prophètes, des enseignants, des évangélistes, des pasteurs, des apôtres. Nous voulons recevoir, Seigneur, tout ce que tu as à nous donner à travers eux. Nous savons que ça vient de ta part pour que nous soyons plus forts, pour que nous soyons plus grands, pour que nous soyons progressivement à la mesure de la stature parfaite du Christ. L'année du changement, Seigneur. L'année des attributions. L'année de la croissance. L'année, Seigneur, où arrivé au mois de novembre ou décembre, nous nous retournerons par rapport à janvier en disant « Je ne me reconnais plus. Je ne suis plus la même personne. » Et ça ne peut venir que de Dieu. Mes enfants ne me reconnaissent plus. Ma famille ne me reconnaît plus. Mes frères et sœurs de l'Église ne me reconnaissent plus. Parce que Christ aura pris de la place en moi. Nous te bénissons, Seigneur, nous te remercions. Maintenant, nous te laissons faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà le message d'aujourd'hui, mes amis. Merci, Seigneur.